Que le Seigneur soit béni. Que Jésus puisse nous dire un jour, vous vous assemblez pour devenir meilleur. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On s'assemble et on a un seul but, devenir meilleur. On va faire deux lectures pour introduire ce sujet que nous avons partagé déjà depuis deux ou trois fois dans 2 Corinthiens au chapitre 10. Il nous a dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3, 4 et 5. Nous allons voir ce soir des textes qui nous encouragent à voir comment il faut se comporter pour être rempli du Saint-Esprit. Ça vous intéresse d'être rempli? Oui, c'est la volonté de Dieu, c'est un commandement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc on peut y arriver. Dieu ne le fera pas pour nous, c'est comme ce cantique, il est beau ce cantique qu'on a chanté, « Change mon cœur », mais quand même c'est notre participation qui fera que notre cœur changera. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Que sont ces forteresses ? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il s'en passe des choses dans notre tête. Que de raisonnements peuvent être comparés à des forteresses. Alors, nous allons faire notre deuxième lecture dans 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors c'est le verset 4 qui nous intéresse. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc si nous voulons être dans la victoire, il faut absolument que nous ayons une foi qui surmonte tout ce qui a besoin d'être surmonté. Vous avez vu comment terminent les lettres aux églises, les sept lettres. Comment terminent les sept lettres aux églises? À celui qui vaincra. Les sept églises sont interpellées et Dieu interpelle les gens au singulier. Il ne dit pas à ceux qui vaincront. Pourtant, il s'adresse à tous les chrétiens. Et là, à la fin, il termine en individualisant l'affaire. C'est-à-dire que Dieu parle à toutes les églises, mais en vérité, c'est un problème personnel. C'est individuellement que nous choisissons d'être des vainqueurs. À celui qui vaincra. Moi, je suis étonné, on le voit plusieurs fois dans la Bible. Jésus parle dans Amos au chapitre 4, il parle à tout le peuple de Dieu, il parle, je vous ai fait ceci, je vous ai fait cela, je vous ai fait ceci, et vous, et à la fin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, on voit bien que Dieu parle à l'Église, mais à la fin, il faut que nous prenions une décision personnelle. C'est moi qui choisirai d'être un vainqueur. Vous connaissez tous l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Vous connaissez le conseil que Dieu donne à la fin de cette prophétie? Il y a un conseil. Veillez donc. Veillez donc. Et ce soir, c'est ce qu'on est venu faire. On est venu veiller pour comprendre vraiment s'il y a quelque chose qui doit être corrigé, quelque chose qui doit être arrangé. Tiens, je ne suis peut-être pas assez consciencieux dans ce domaine, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la méditation, dans le domaine du service. Et ça, le Saint-Esprit va nous le montrer et nous deviendrons tous des vainqueurs. Il y a un verset, moi, qui m'a beaucoup interpellé, je le cite, c'est ainsi. C'est le proverbe, ne le cherchez pas, 27, verset 7. Vraiment, c'est un problème qui m'interpelle. Et ce matin encore, en priant pour ces moments, je pensais à ce verset qui m'interpelle. « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. » Moi, c'est un verset qui me travaille. Je ne sais pas vous si ça vous arrive des fois qu'un verset vous travaille. Ça vous arrive? Un verset qui... Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, la première fois que je l'ai lu, ça m'a énormément interpellé. Enfin, la première fois, c'est en passé, là. Où j'ai compris vraiment que notre vie spirituelle pouvait être énormément altérée par cette affaire. C'est-à-dire que si le monde nous envahit, eh bien, nous allons avoir du mal à... à élever la parole du Seigneur dans notre cœur. D'ailleurs, c'est écrit, celui qui aime le monde, comment c'est la suite ? L'amour du Père n'est pas en lui. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord ? Vous voulez être remplis du Saint-Esprit ? Si vous deviez faire, vous savez, une petite... sur une bouteille, c'est à combien que vous êtes remplis, que nous sommes remplis ? 1%, 2%, vous savez, les bouteilles, hein ? 10%, qu'est-ce que vous répondriez ? Vous seriez capable ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le sait, la quantité d'huile qu'il y a dans notre lampe ? Est-ce qu'on le sait, au fait ? Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est possible. On peut discerner chez quelqu'un quand même la grâce qui sort. Vous êtes d'accord avec moi ? On le sent, quelqu'un qui est tout le temps en train de rendre grâce, quelqu'un qui est tout le temps en train de, quand même d'exprimer, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, on voit bien si la personne est remplie de crainte, remplie de peur, de découragement. Vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui déborde de découragement ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Quelqu'un qui déborde de tristesse ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? On le voit vite. Donc, alors on ne peut pas juger. On ne peut pas juger parce que le Saint-Esprit fait une œuvre en chacun de nous. Mais une chose est sûre, c'est vrai que Dieu veut que nos lampes soient remplies. Alors, Michael disait, le conseil de la parabole ou de la prophétie, ce sont les vierges sages qui donnent au conseil aux vierges folles, allez acheter de l'huile. Moi, la première fois que j'ai lu ça, acheter de l'huile, vous savez, moi, j'étais tout simple au début. Acheter le Saint-Esprit ? Est-ce qu'on peut acheter le Saint-Esprit ? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a un prix à payer. C'est gratuit, mais il y a un prix à payer. Et c'est pour ça qu'on est là, en vérité. Même si c'est une grâce, on se dit, il y a quand même un prix à payer. Est-ce qu'il nous est dit plusieurs fois d'acheter certaines vertus ? Qu'est-ce que c'est qu'il nous a demandé d'acheter ? Tiens, aidez-moi quand même. De l'or ? Ouais. Acheter de l'or. Est-ce qu'on peut acheter de l'or à une église à qui Jésus vient de dire, tu ne sais pas que tu es pauvre ? Tu ne sais pas que tu es pauvre, achète de l'or. Ça paraît complètement paradoxal. Mais ça veut très bien dire ce que ça veut dire, c'est que nous pouvons acheter de l'intégrité, nous pouvons acheter des vertus spirituelles qui feront que nous serons de plus en plus droits devant Dieu, vrais devant Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a demandé d'acheter encore ? Du lait. Quelqu'un dit du lait, non ? Pas quelqu'un qui dit du lait ? C'est moi qui entends des voix. Hein ? Qu'est-ce qu'il nous a dit d'acheter ? Un collier pour être nos yeux. Qu'est-ce qu'il a dit encore ? Comment ? Non. Il nous a demandé d'acheter du vin, d'acheter du lait, d'acheter de l'or, un collier et acheter de l'huile et après acheter. Il manque. Je comptais d'acheter des vêtements blancs. Tout cela indique qu'il y a un effort à faire. Et c'est ce que l'on veut faire ce soir. Nous voulons travailler de sorte que nos lampes se remplissent d'huile. Alléluia. Hein? Et que quand Jésus reviendra, eh bien, il nous trouve prêts. Ça, c'est important. Alors, on va partir d'un texte. Il faut que ça dépend que de nous. Vous savez, il y a un texte dans le livre des rois. Dans un roi au chapitre 17, on voit Jésus, enfin, on voit le prophète Élie, qui va vers une ville. Ça se passe au Liban actuel. Vous savez, c'est une drôle d'histoire. Ça ne s'est même pas passé en Israël. Pourquoi ça s'est passé au Liban ? Dieu envoie une femme, non, un prophète, vers une femme qui est en train de vivre des moments extrêmement difficiles. Cette femme était en train de faire son dernier repas. Vous vous rendez compte, c'est terrible ça. Vous vous imaginez en train d'aller ramasser quelques branches de platane là, ou de tilleul dans les allées, et de préparer votre dernier repas. Alors regardez bien, on va quand même lire. C'est important, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez que acheter de l'or, acheter des vêtements blancs, acheter un collier, c'est-à-dire payer un prix, ça passe par un acte de foi. Un roi, chapitre 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Vous auriez répondu quoi, vous, au fait? Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Vous auriez répondu quoi, vous? Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais-moi comme tu as dit. Fais comme tu as dit, seulement. » Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors, on va lire dans l'évangile de Luc, parce que Jésus reprend cette histoire. Il la reprend au chapitre 4, il la reprend, c'est son premier sermon dans la synagogue de Nazareth, et il va interpeller les pharisiens qui étaient là dans cette synagogue, et regardez ce qui se passe. Donc là, Jésus est en Israël, il prêche dans une synagogue. Regardez bien, on va partir du verset 25, Luc 4, 25. Regardez bien, mes frères et sœurs, regardez bien. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Donc, il y avait plein de veuves, bien sûr. Ça a duré longtemps et Jésus dit que c'était une grande famine. Et cependant, regardez bien, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon, donc à l'étranger. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Là, c'est pire encore. Hein. Et là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit dans la synagogue. C'est ça que vous avez dans votre Bible? Ah, pardon. Vous voyez, comme quoi on peut être rempli des choses de Dieu, comme on peut être rempli, ils furent remplis de colère. Vous avez compris pourquoi ils sont remplis de colère? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Jésus est en train de dire qu'il y a des Juifs qui auraient dû être, pendant la famine, bénis, parce que la Bible est claire que celui qui se confie en Dieu ne souffre pas de la famine. Et là, Jésus est en train de leur montrer que les Juifs sont passés à côté de la grâce, passés à côté de certaines expériences. Mais dites-moi, est-ce que nous aussi, nous ne passons pas parfois à côté de certaines expériences? Est-ce que le Seigneur ne pourrait pas nous dire, mais vous, le peuple de Dieu, vous n'avez pas été béni pendant la famine, mais là-bas, tel étranger a été béni, il ne va même pas à l'église. Ça vous vexerait ou ça vous interpellerait? Ça vous vexerait? Vous seriez en colère ou parce que Dieu n'a pas béni l'église, il a béni un étranger qui ne va jamais à l'église? Qu'est-ce que ça vous ferait? Aidez-moi. J'espère que ça vous interpellerait. Mais eux, vous voyez comme quoi c'est vite fait, ils ont été remplis de colère parce qu'ils se sont sentis jugés. Alors que non, Jésus était en train de leur enseigner que Dieu est juste et que Dieu est capable de bénir son peuple, mais que Dieu est capable aussi de bénir les étrangers, tous ceux qui obéissent à sa parole. Vous avez vu cette femme, elle n'a pas du tout démordu. Quand le prophète est arrivé, elle aurait dit, non mais de quoi? Quoi? Il me reste un peu de farine, en plus il me demande de lui préparer un gâteau. Comment vous auriez réagi? Il ne vous reste que 5 euros, il vous reste 5 euros. 8 euros. Il vous reste 8 euros pour nourrir votre bébé, pour acheter un peu de lait et vous un petit morceau de pain. Et le prophète arrive dans la maison et me dit, non, tu vas me faire un gâteau à moi d'abord. Pardon? Oui, tu me fais un gâteau à moi. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que Dieu peut nous éprouver? Il peut nous éprouver, peut-être pas de cette façon, mais il peut nous éprouver. Ce qui est important, c'est que nous fassions ce qu'il nous demande. Il dit, rentre, rentre. Vous avez vu ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit à cette femme? Je crois que ça commence par là, parce que ça n'a pas commencé par le gâteau. C'est bien le gâteau, c'est bien. Mais ça a commencé au verset 13. Il faut rentrer dans cette grâce. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, il faut d'abord faire la première expérience. Enfin, il y en a deux. 1 Roi 17, verset 13, c'est important, mes frères et sœurs, parce que nous aussi, nous sommes dans des temps difficiles. Est-ce que ce n'est pas la famine sur la terre, au fait? Est-ce que spirituellement, à cause de l'apostasie, le corps de Christ n'est pas quand même dans une grande famine? Vous savez, moi j'entends régulièrement des gens qui me disent, dans mon église, tout le monde est découragé. Je suis dans une église, tout le monde est déprimé. Je suis dans une église, tout le monde est malheureux. C'est de la famine. Oui, c'est de la famine spirituelle. Bien des choses ne manquent, ça c'est clair. Et pourtant, dans ces églises, sérieusement, dans une église, il y a 100 personnes qui sont découragées, déprimées. Est-ce qu'une personne pourrait se démarquer du lot et être dans l'abondance? Mais bien sûr, mais celui qui vaincra. Et Jésus, enfin Dieu dit à cette femme, verset 13, c'est important parce qu'on ne peut pas faire quelque chose si on n'entre pas dans le repos. Ne crains point, rentre. Et je crois que la première chose que nous devons faire, c'est comprendre les premières instructions du Seigneur. Ne crains rien. Vous avez entendu le don spirituel? Ne crains rien. Ne porte pas des regards inquiets. Rentre, rentre dans ta maison, rentre dans ta chambre, rentre dans ta salle à manger et écoute. Écoute ce que Dieu a à te dire. Mes frères et sœurs, il y a un livre que l'on vend ici. Je le vois d'ailleurs d'ici. C'est un livre parce qu'il est rouge et on le voit bien. C'est un tout petit livre de Wajmani qui s'intitule « S'asseoir, marcher, tenir ferme ». On ne peut pas combattre si au préalable on ne marche pas. Mais on ne peut pas marcher si au préalable on n'est pas assis dans les lieux célestes. Et Dieu dit à cette femme, rentre. C'était à l'étranger. Moi, j'aime ces histoires. Moi, ça ne me remplit pas de colère. Moi, ça me remplit de bénédiction. Parce que je sais que n'importe où sur la terre, si quelqu'un, malgré sa misère et malgré la famine, croit en Dieu, eh bien, Dieu interviendra. Gloire à Dieu. Ça vous encourage pas? C'est pour cela que veillez à ne pas trop regarder si les gens sont découragés autour de vous. C'est vrai que, bon, on est influencé quand même. C'est sûr que dans une église, s'il y a 100 personnes découragées, c'est difficile de... Non? Oui ou non? Franchement, soyons honnêtes. Ouais, c'est quand même pas évident de se démarquer si tout le monde est charnel, d'être spirituel, si tout le monde est découragé, d'avoir du courage. Mais la parole de Dieu est catégorique. Ce texte nous le montre. Les injonctions de Dieu dans l'Apocalypse à celui qui vaincra nous prouvent bien que n'importe qui peut être un vainqueur. Donc, un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un chrétien qui n'a jamais d'épreuve, non? C'est ça un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. C'est pas ça? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être dans l'épreuve, être dans la victoire. Vous pouvez être dans l'abondance, être dans la défaite. Nous, on évalue la spiritualité des gens. Ah, ouais, en ce moment, ça va, oui, ça va. Mais vous savez, des fois, ça ne va pas. Et c'est là qu'on est en train de recevoir le maximum. Donc, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'il apprend à ne plus combattre contre la chair et le sang. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est ce que je vous explique dans ce petit livre qui est très, très bien développé. Ne pas combattre contre la chair et le sang, combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, je l'ai dit 50 fois, c'est le combat de la confiance. Qui dit combat de la foi, dit combat de la confiance. Si vous n'avez pas confiance, c'est un mauvais combat. Et un chrétien rempli du Saint-Esprit, il apprend à combattre un bon combat. Une pleine confiance. Voilà ce qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit, il fait confiance. Alors ce texte, on l'a vu la dernière fois pour conclure, et bien on le reprend aujourd'hui. Dans Romains au chapitre 4, c'est le comportement d'Abraham. Franchement, je voulais prendre d'autres textes, mais ce matin en priant, j'ai été poussé, vraiment poussé, à reprendre ce texte, parce que certainement nous avons besoin de le réentendre, ce texte qui nous montre ce qu'il faut faire dans les moments où c'est plutôt la mort qui est là autour de nous. Regardez Romains chapitre 4, on va lire à partir du verset 17. Verset 17, parce que la fin du verset 17 est une grande bénédiction. Romains 4, 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, regardez bien. » Il y a des versets, peut-être que toute la semaine, vous pourrez prendre ce verset dans votre culte personnel et croyez-moi, ça vous fera du bien. Dieu qui donne la vie aux morts. Vous connaissez quelqu'un qui est spirituellement mort ? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça vous plaît ce verset ? Moi, je trouve qu'il est bien. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Bon, il y a eu quelques écarts. Mais moi, ça me fait du bien de lire que quand Dieu parle d'Abraham, il ne fait jamais ressortir ses erreurs, ses égarements, ses péchés qu'il a commis, ses frasques, etc. Ou même quand Dieu parle de David, que Dieu t'a vu mon serviteur David. Mais on pourrait dire, oui, mais d'accord, il y a quand même eu ça, il y a eu ça, c'était pas bien. Mais quand tout est pardonné, tout est pardonné. Que Dieu soit béni. C'est important, mes frères et sœurs, parce qu'on s'en est traîné des casseroles. Et ce n'est pas la peine, si on peut les éviter, il vaut mieux. Abraham, le père de la foi, verset 19, « sans faiblir dans la foi, alléluia, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. » Les quatre mots qui suivent devraient vraiment nous interpeller. Si on veut être rempli du Saint-Esprit, il faut absolument que nous soyons fortifiés par la foi. Comment ? En donnant gloire à Dieu. Résultat, ayant la pleine conviction. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui se comporte de la sorte, il aura pas une petite conviction, oui, j'espère, non, une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mes frères et sœurs, Abraham était dans une situation difficile. Il s'est loupé, Dieu ne le lui reproche pas. Faites attention quand vous exhortez les gens à ne pas leur reprocher des erreurs qu'ils ont pu faire. Oui, mais t'as fait ça. Et tu crois que Dieu va te bénir ? Eh bien oui. Cette semaine, j'ai encore lu le livre de Job. Je suis mais bouleversé maintenant quand je lis ce livre. De voir comment ses amis, ils étaient archi-intelligents. C'est des gens, quand vous voyez la façon dont ils s'expriment, c'était vraiment des gens intelligents. Et tous les quatre, parce qu'il n'y en a pas que trois, il y en a un quatrième, il a été pire, je crois. Il était jeune, il a attendu pour parler que les vieux aient parlé. Ils ont mieux fait de se taire, mais enfin, Dieu a voulu que ça soit écrit. Mais d'une dureté. Et pourtant, tout ce qu'ils disent est intelligent. Mais d'une dureté, parce que ce n'est pas possible de comprendre l'épreuve des autres. Je crois que ce n'est pas possible. Vous en avez traversé des épreuves, on vous a regardé. Franchement, il vaudrait mieux se taire, des fois dire, écoute, je prie pour toi, c'est tout. Parce qu'on a vite fait de démolir quelqu'un, oui ou non ? C'est même la même épreuve. Je suis sûr qu'une personne qui vit un divorce, elle se croit capable de dire « Mais moi, je vais t'aider parce que tu sais, j'en ai traversé un, tu vas voir, tu vois, ça va se passer comme ça. » Moi, je suis sûr que même, c'est pas parce qu'on a traversé les mêmes épreuves qu'on est forcément capable d'aider la personne. Mais vraiment, lisez le livre de Job. C'est à s'arracher les cheveux, ce livre. Pourtant, Dieu l'a permis. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a une chose qui nous gardera victorieux, c'est de dire, voilà, moi je ne sais pas comment faire, je n'arrive pas. Abraham ne pouvait plus d'avoir d'enfants, sa femme avait été ménopausée, c'est ça que ça veut dire. Donc ce n'était pas possible. Mais lui, il ne considéra pas sa femme, il ne considéra pas son corps. Et ça, c'est une bénédiction, je ne considère pas ma vie telle qu'elle est, avec mes hauts et mes bas, je ne considère pas le corps, c'est-à-dire l'Église. Moi, je considère le Dieu qui tient l'Église, qui tient le ciel dans sa main, il tient ma vie, il tient mes enfants. Moi, je ne considérerai pas tous ces trucs. Je ne considérerai pas toutes ces choses. Je crois qu'il y a un Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est tout puissant, mes frères et sœurs. Et il ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'il cherche dans la Bible comment il fallait faire ? Ah, qu'est-ce qu'il a fait, David ? Eh bien, il a tué un géant. Bon, c'était avant, mais fait mon David. Hein. Parce qu'on va me le dire à la fin. Il a tué un géant ? Ben, moi, je vais chercher un géant. Avec quoi une fronde ? Ben, je cherche une fronde, je cherche un géant. N'essayez pas d'imiter quelqu'un. Noé, qu'est-ce qu'il a fait, Noé ?
Ah, il a construit une arche. Ben, moi aussi, je vais construire un yacht, on verra bien.
Mes frères et sœurs, autant il faut imiter la foi des gens, n'imitez pas ce qu'ils font. Abraham, il pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Il est écrit, il fut fortifié par la foi. Ça vous intéresse? C'est ça, être rempli. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Eh bien, frères et sœurs, si vous savez pas quoi faire, si vous pouvez rien faire, parce que des fois on peut vous mettre la pression, ben tu devrais faire ça, tu fais rien. C'est peut-être vrai. Ça, c'est peut-être vrai, mais il faut que ça vienne dans votre cœur. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont mis en braque avec Dieu parce qu'ils ne faisaient pas la petite chose qu'ils auraient dû faire. Abraham, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse, qu'il consulte tous les gynécologues de Jérusalem? Abraham, il a glorifié Dieu. Et cela lui a provoqué une pleine conviction. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, il y a de la famine, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. L'apostasie, elle est dans l'église. Il y a plein d'églises qui sont découragées, il y a des églises qui ferment, il y a des églises qui n'ont pas de pasteur. J'ai envie de dire, et alors? Moi, je veux être un vainqueur. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas faire, je ne sais rien faire, mais je peux commencer ma journée en glorifiant Dieu. On le relit à la fin du verset, parce que c'est important. Parce qu'on ne va pas être rempli du Saint-Esprit qu'avec l'imposition des mains, quoique. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas commencer à être rempli du Saint-Esprit. Il faut rester rempli du Saint-Esprit. On relit le verset 20 et 21, s'il vous plaît. Parce que je suis certain, ce n'est pas possible, si Dieu m'a remis à cœur ce même passage que mardi dernier, c'est parce que quelqu'un doit vivre cela. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Comment? En donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous le croyez que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir? Est-ce que Dieu veut que tous nos enfants soient sauvés? Est-ce que c'est une promesse? Est-ce que c'est écrit que Dieu veut sauver nos familles? Toutes les familles, est-ce qu'il y a une promesse dans la Bible? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bon, on ne va pas les citer. Dieu veut sauver vos enfants. Il ne vous a pas donné des enfants pour rien. S'il vous a donné des enfants, ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, je me lèverai, je glorifierai Dieu. Je prendrai mon petit déjeuner, je glorifierai Dieu. Je le ferai intérieurement. Je peux pas. Au travail, vous ne mettez pas genoux dans votre bureau en criant, je dois glorifier Dieu. Monsieur Gou a dit hier, il faut glorifier Dieu, taisez-vous, éteignez-vous. Non, dans votre cœur, glorifiez Dieu. Dieu va le voir, mais... Vous croyez que Dieu voit ces choses? Pourquoi Yahébet? J'en ai parlé l'autre jour, le jour de l'Assemblée Générale, quand Yahébet a été plus considéré que ses frères. On voit dans la Bible que Dieu fait des préférences. Pourtant, il est écrit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais non, Dieu veut bénir tous les hommes. Mais certains se considèrent, c'est-à-dire s'élèvent au-dessus des autres, non pas parce qu'ils s'enorgueillissent, mais parce qu'ils élèvent leur foi au-dessus de la foi des autres. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est cette foi que Dieu nous a donnée à chacun. Et Yahébet, à un moment donné, il a dit, c'est pas possible. Pourtant, je vous assure, lisez le contexte et vous allez voir dans quelle génération il est né. Eh bien, Yahébet, il nous a dit qu'il a prié. Il a dit, Seigneur, vous rappelez la prière de Bidet? Il y a 4 points. Allez, on y va? Je crois que c'est dans Chronique 4. Allez, mes frères et sœurs, qui veut vraiment glorifier Dieu? Alors, 1 Chronique 4, verset 9. Mes frères et sœurs, c'est important. Vous voulez ressortir avec une pleine conviction? Vous ne voulez pas ressortir avec une pleine conviction? Regardez, 1 Chronique 4. C'est un contexte archi-difficile. Archi-difficile. Une génération difficile. La mère devait être dans une souffrance pas possible. Puisqu'elle a appelé son fils souffrance. De la souffrance, il y en a. Yahébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de souffrance, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Alors quel âge avait-il, au verset 10? Avait-il 20 ans, 25, 50? On n'en sait rien. Pardon. Yahébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, regardez bien, si tu me bénis, que tu étendes mes limites. Si ta main est sur moi, avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, parce qu'il en avait certainement assez. Il y a un temps pour tout, vous savez. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour souffrir, c'est vrai.
Mais il y a un moment où on peut dire, Seigneur, tu changes le mal en bien. Je le crois. Que je ne sois plus... Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parce que cette bénédiction, c'était pour glorifier Dieu. Abraham, il a glorifié Dieu. Vous pouvez être sûr, si vous lisez, il y a plein de livres sur la prière de Yébet. Il n'y en a pas beaucoup de corrects, je vous dis franchement. Mais une chose est sûre, vous pouvez faire la même prière avec le seul même objectif, que ça serve à te glorifier. Abraham a glorifié Dieu. Vous voulez que le nom du Seigneur soit glorifié au travers de votre vie ? Eh bien, ayons cette pleine conviction. Seigneur, je voudrais être baptisé du Saint-Esprit. Je voudrais être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas ressembler aux amis de Job, avoir une connaissance super importante et décourager tout le monde. Franchement, c'est impressionnant. Moi, je ne voudrais pas être pasteur d'une église légaliste. Moi, je voudrais être pasteur d'une église où il y a plein de grâce à l'intérieur. Plein de grâce, plein de paix. Plein d'affection, comme on l'a lu tout à l'heure. Vous voyez, on a prié les uns pour les autres. C'était bien comme ça. Soyez plein d'affection. Quelqu'un qui est rempli, il va communiquer la grâce. Et je vois que le retour, j'aimerais peut-être prendre ce verset dans Romains au chapitre 14. C'est quand même important, frères et sœurs. Je voudrais que nous puissions nous cantonner à ces choses. Et peut-être pendant quelques jours, quelques semaines, dis, mais moi aussi, Seigneur, je veux te glorifier. Mes enfants ne t'appartiennent pas, mais Seigneur, moi je veux te glorifier. Tu as le pouvoir sur les morts et les vivants. Vous croyez que Dieu saurait parler à votre fils? Vous savez, j'avais lu un témoignage, c'est magnifique. C'était un jeune, pendant que vous cherchez le texte, Romains 14. J'ai lu ça dans les feuillets, je crois, des éphémérides. C'était une femme qui était chrétienne. Elle devenait âgée. Et son fils faisait des études de médecine et il s'éloignait de Dieu. Un jour, elle lui achetait une très belle Bible. Elle lui achetait une très, très, très belle Bible. Et son fils, elle lui a demandé quelques semaines après, « Qu'est-ce que tu as fait de la Bible ?»« Je l'ai vendue pour acheter des bêtises. » Et il a vendu la Bible. Vous vous rendez compte ? Sa mère, elle était... elle est morte. Elle a prié, puis elle est morte. Quelques temps après. Ce garçon, il est devenu docteur dans un hôpital. Et un jour, écoutez bien, c'est magnifique. Un jour, il soigne un patient, un vieux patient. Un patient qui était en fin de vie. Et avant de mourir, cet homme, il lui dit, quand je serai mort, je voudrais que vous preniez ma Bible. Je voudrais que vous la preniez. Bon, cet homme, il est mort. Et le docteur, bien sûr, il prend la Bible, il l'ouvre. Et c'était la Bible que sa mère lui avait offerte il y a 20 ans en arrière. Mon cher fils, il a reconnu. Il y avait là sa mère. Et cet homme, il s'est converti. Le hasard. C'est beau, le hasard. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Bien sûr que nous, on aurait été en colère le jour où il a vendu sa Bible, non? Mais Dieu, lui, dans le ciel, il savait très bien qu'il contrôle tout. Et quand il est dit dans Romains 14... Voyez, c'est un chapitre que j'apprécie beaucoup, parce qu'il y a des chrétiens qui se disputent, il faut dire les mots, parce que certains considèrent le dimanche comme étant le jour du Seigneur, les autres 6 jours, non, ils sont inférieurs. Qu'importe que tous les jours on obéisse à Dieu, c'est ça qui est important. Et l'apôtre Paul dit au verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important, le dimanche ou le samedi ou le lundi ou qu'est-ce que c'est le plus important? Vous êtes sûr que le dimanche, quand même, c'est le jour du Seigneur, le dimanche? Quand même, le dimanche. Qu'importe, il s'agit qu'on obéisse le lundi et tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit? Que chacun ait en son esprit, qu'est-ce qu'il faut avoir? Une pleine, pas une petite conviction, oui, vous avez raison, j'espère que vous avez raison, pasteur. Non, une pleine conviction. Je termine avec 2 textes, parce que quand même, je les ai vus à cœur en priant. Vous connaissez Actes chapitre 16. Dans les Actes chapitre 16, on voit 2 serviteurs de Dieu qui vont devoir traverser un moment archi difficile. Ils prêchent la parole, résultat, on leur casse la figure, excusez-moi l'expression, c'est la vérité. On leur casse la figure, on les jette dans une prison, blessés. Et le gardien était très 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 compatissant. Hein. Regardez bien. Ils sont blessés, on les jette dans une prison entièrement dans le noir. Acte 16, 24. Le geôlier,
et ayant reçu cet ordre, vous voyez, il ne les met pas dans la prison. Il les jette. Vous voyez, ça vous montre la délicatesse avec laquelle les gens peuvent nous traiter. Ils étaient blessés dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, tout le monde pleurait, était fatigué, non ? Vers le milieu de la nuit, c'est notre époque, ça représente l'époque des ténèbres. Paul et Silas priaient, ils priaient pas, ils priaient et ils chantaient. Les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient, ça a dû plaire à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a provoqué un truc de bien. Vous connaissez la suite. On va lire maintenant comment Paul en parle de cette expérience. Quelques années après, il écrit aux Thessaloniciens. Regardez bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on glorifie Dieu ? Alors, c'est dans 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er et verset 2. C'est exactement le témoignage d'Abraham. Mes frères et sœurs, vous pouvez prendre ces versets et dire, eh bien, moi aussi, on m'a fait mal, on m'a blessé, on m'a enfermé, on m'a maltraité. Alors comment je faisais du bien, alors comment je priais, qu'est-ce qu'ils font ? Ils me font souffrir. Regardez comment Paul parle de cette affaire. Regardez bien. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Regardez bien. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu. Pourquoi faire ? Pour vous annoncer l'évangile de Dieu dans la grande bénédiction. C'est ça que vous avez ? Au milieu de bien des combats. C'est pour ça que le problème, ce n'est pas les combats, ou les verts pâturages, les eaux paisibles, ou le désert. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de dire, Seigneur, je te fais confiance. On m'a blessé, on m'a enfermé, on n'a pas compris mes propos, mais moi, je te glorifierai, je prierai, mais je crois surtout que je vais me mettre à chanter. Je vais glorifier ton nom. Je te glorifierai. Tu donnes la vie aux morts, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous ne trouvez pas ça merveilleux ? Mais vous le croyez, frères et sœurs ? Vous croyez que tous vos enfants peuvent un jour prendre le baptême, là ? Vous dites, non, mais vous ne connaissez pas mes enfants. Ah ouais ? Et bien Paul, qu'est-ce que c'était, Saul de Tarse, un persécuteur, un blasphémateur. Vous avez vu ce qu'il est devenu ? Mes frères et sœurs, quand vous ne savez pas quoi faire, ne vous démenez pas. Glorifiez Dieu. Ce soir, vous allez rentrer, je ne sais pas si vous avez mangé ou pas, si vous allez vous détendre ou pas. Glorifiez Dieu. Vous entendez ? Mais il faut que ça soit ça, là. Il ne faut pas que ça soit là. Il faut glorifier Dieu. Je vais mettre mon réveil toutes les 5 minutes sur mon téléphone. Chaque fois qu'il va biper, je vais dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous ne savez pas, monsieur, 20 fois par jour, je n'oublie pas. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, il nous est demandé d'imiter la foi d'Abraham. Ceux qui, par la persévérance, héritent des promesses. Ça, c'est un état d'esprit. Ça rentre là, il faut que ça descende 40 cm plus bas, ici. Seigneur, je sais que c'est vrai. Nous avons pris de l'assurance. J'ai une pleine conviction. J'ai une pleine assurance. Et ça, ça plaît à Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Si on sait, c'est du pipeau, excusez-moi l'expression, si c'est de la religion, si c'est de l'apparence, s'il faut le faire pour le faire, il y a des gens, mais je prie, ça sert à rien. Moi, je crois qu'il faudrait peut-être commencer à dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait obstacle à ma prière ? Je ne peux pas enfanter des âmes, le corps est mort. C'est l'image de tout ce qui ne va pas. Moi, ça ne va pas. L'Église ne va pas. Mais moi, j'ai un Dieu qui est vivant. Et je te glorifierai. Abraham fut fortifié par la foi en construisant une arche pour imiter son copain Noé. Non, mais moi j'ai tellement vu des gens qui imitaient les autres. Ah, il prie combien le pasteur là ? Il prie tant de temps ? Combien t'as dit ? Je vais prier pareil.
Non, mais tout ça, c'est ridicule. Je glorifie Dieu que je sois en train de prier, ou que je sois dans la voiture, que je sois dans telle activité ou pas. Je glorifie Dieu. Et je vous assure, ça lui plaira. Abraham, on termine en le relisant, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à le faire. Eh bien, vous allez y arriver. Vous voulez y arriver à le glorifier? Au moins le dimanche, non? Le dimanche? Allez, un peu le dimanche soir? Un peu le lundi matin? Un peu tout le temps? Voilà ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. Voilà comment on le devient. Romains 4, verset 20, il ne douta pas. La Bible dit que celui qui doute, il est semblable au flot de la mer. Qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra. Ça veut dire pas, Dieu l'aime, mais il ne recevra pas. Que celui qui demande ne doute pas. Il ne douta pas. Vous pourrez me dire, oui, mais à 75 ans, il a quand même fait un gosse avec sa servante. Oui ou non? Eh bien, je vous le dis parce que si vous vous êtes loupé, mettez ça de côté et repartez à zéro. Ne laissez pas le diable vous accuser. L'accusateur des frères, parce qu'on en a fait tous des galettes, des boulettes. Ne laissez pas le diable vous accuser. Parce que vous avez été maladroit ou parce que vous avez commis un péché. Glorifiez le Seigneur. Glorifiez-le. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Vous le soulignerez ce verset, vous l'imposerez, vous le graverez dans votre cœur. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Il fut fortifié par la foi, il a donné gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, qui veut vraiment donner gloire à Dieu? Yahébet, c'est pas écrit, c'est sûr. Yahébet, il voulait que ça serve à la gloire de Dieu. Vous croyez qu'il était plus considéré, que Dieu a dit, tiens, celui-là, je vais lui faire du bien plus que les autres? Non. Il s'est dit, il y en a assez. La souffrance, ça suffit. Ma mère m'a programmé à la souffrance. Moi, je vais me laisser bénir par le Dieu du ciel et de la terre. Vous entendez, mes frères et sœurs? Parce que votre mère peut vous avoir programmé à... Moi, mes parents, si vous saviez comment ils m'ont programmé au bonheur. Mais je crois que Dieu, lui, il peut nous bénir. Vous croyez que Dieu peut bénir? Même s'il y a des grandes famines? Même si vous êtes un étranger? Apparemment, même si vous n'êtes pas encore membre de l'Église? Est-ce que ce soir, quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église pourrait être béni? Est-ce qu'un étranger au peuple d'Israël pourrait être béni? Est-ce qu'un arabe pourrait être béni? Mes frères et sœurs, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Mes frères et sœurs, prenons cette décision de glorifier Dieu. Quand vous vous levez le matin, imposez-vous un cantique. J'insiste, mais je sais qu'il me faut le faire. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie de prêcher 2 minutes de plus. Quand vous vous levez le matin, je sais pas, moi quand je me lève le matin, je dis, en ce moment, ça fait 2-3 mois que ça dure, mon âme bénit l'Éternel. Vous connaissez le cantique? Mon âme bénit l'Éternel. Moi, je chante bien. Mon âme bénit l'Éternel. Ouais. T'as fait des progrès. Bon, c'est, mais t'en as fait. Est-ce que vous chantez, tant pis si vous chantez faux. Est-ce qu'on peut chanter le matin, mon âme bénit l'Éternel? Mes frères et sœurs, ne me levez pas la main, mais répondez-lui. Qui? Répondez-lui à lui, hein, dans votre cœur. Qui veut vraiment le glorifier? Comme Yahébet a glorifié Dieu. Et Dieu lui accorda ce qu'il demandait. Il n'a même pas fini sa prière, Dieu dit, c'est bon, ça me plaît. Vous avez envie que Dieu exauce votre prière, même avant que vous l'ayez fini? C'est pas écrit pour nous faire bader. C'est écrit pour qu'on le vive. Si tu étends mes limites, Seigneur, si je ne suis plus dans la souffrance parce que j'en ai marre. Moi, je veux être une source de bénédiction dans l'Église. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tous ces témoignages qui ne prouvent que tu ne fais pas de favoritisme. Que ce soit pour cette Libanaise à Sidon, que ce soit pour Yahébet, que ce soit pour Abraham, que ce soit pour Paul et Silas, ils ont tous vécu cette grâce que lorsque l'on te glorifie, lorsque l'on t'obéit avec le cœur, tu pourvois. Seigneur, notre monde est dans la famine, dans une grande famine. Notre monde est dans la détresse. notre monde va s'accumuler cette colère, mais nous, tes enfants, nous choisissons de faire la même prière que Yahvet. Cette bénédiction, ses limites, ses faveurs, cette bonté, nous voudrions et nous voulons qu'elle te serve, qu'elle te glorifie dans nos familles, auprès de nos enfants, auprès de ceux que nous côtoyons, entre nous. Nous voulons que de nos bouches ne sortent que des paroles de grâce. Et lorsque nous nous trompons, Seigneur, car tu sais combien nous sommes maladroits, eh bien nous te demandons de nous reprendre, de nous interpeller, de nous travailler. Oui, nous voulons être ces cœurs brisés lorsque cela est nécessaire, que le péché brise nos cœurs, afin que nous puissions nous corriger, Seigneur Jésus. Tout cela dans le but de te glorifier, et que nous terminions la course avant que tu ne viennes chercher ton Église, comme ces vierges qui ont de l'huile dans leurs lampes, remplies du Saint-Esprit, remplies d'espérance, remplies de conviction, remplies de grâce, oui, tous les jours de notre vie. Seigneur, nous le croyons, que tu es un Dieu qui fait grâce à tes enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.